ce temps de prière durant lequel vous avez donné toute ma prédication. Donc je vais quand même y aller. Ma question ce matin, que nous apporte l'ascension de Jésus-Christ ? On a vu que Jésus était monté au ciel et que les disciples étaient dans la joie. Et moi, j'aurais plutôt tendance à me dire non, surtout pas. J'ai envie que Jésus soit avec nous, physiquement présent au milieu de nous. Mais il vaut mieux que Jésus soit au ciel. Alors finalement, la question, c'est que nous apporte l'ascension de Jésus-Christ ? C'est la 51e question du catéchisme. Et je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Que nous apporte l'ascension de Jésus-Christ ? Une réponse ? Le Saint-Esprit, oui. Mais ça n'empêche pas, enfin, on pourrait recevoir le Saint-Esprit et puis que Jésus reste là. Mais oui, d'accord, oui. L'intercession. Ouais, il y a quelque chose, ouais.
Jésus était présent à un seul endroit,
présent partout, ouais. Vous êtes beaucoup plus spirituel que moi ce matin. Moi, j'ai mis « Que nous apporte l'ascension de Jésus ?» Une responsabilité. Voilà le mot de la journée. Quels étaient les deux mots de la semaine passée ? Est-ce que quelqu'un s'en souvient ? Et justice. Ah ben bravo ! On en ajoute un, et c'est responsabilité. Alors il n'y a plus grand-chose de spirituel, me diriez-vous. Ne vous détrompez pas, il y a quelque chose de profond là derrière. Et pour découvrir cette responsabilité, je vous invite à lire Romains 8, les versets 31 à 39. Que dirions-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, vous avez raison. Ces versets sont aussi cités dans le catéchisme en réponse à cette question que nous apporte l'ascension de Jésus-Christ. Et je vous propose de cheminer avec ces quelques versets. Alors, de nombreux chrétiens connaissent cette finale de ce chapitre 8, hein, de l'épître de Paul aux Romains, où on cite volontiers « En effet, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Qui connaissait ce verset ? Voilà. Est-ce que parfois on le cite un petit peu à l'emporte-pièce ? Quand même. Pas toujours. L'apôtre Paul ne cite pas cette phrase à l'emporte-pièce. Quand Paul dit « rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu », il le présente ici comme une conséquence de quelque chose. Et si rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu est une conséquence, c'est qu'il y a une cause derrière. Savez-vous laquelle ? Et la clé de la compréhension de ce texte, de cette conséquence, se trouve au verset 34, où Paul dit « Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Paul ne fait pas la narration du récit de l'ascension. Et je ne crois même pas dans ces épîtres qui nous racontent, qui parlent de l'événement de l'ascension. Mais Paul nous dit simplement et sobrement que Christ est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Est-ce un simple détail ou est-ce une révélation d'importance ? Si c'est un simple détail, je peux m'arrêter là, vous n'êtes plus obligé d'écouter. Et si c'est une révélation d'importance, alors allons voir la suite. Et pour ce développement, je vais citer mes sources, je suis redevable aux commentaires qui se trouvent dans ce catéchisme-là. J'ai repris quelques points, je les ai agrémentés, mais je suis redevable en grande partie du travail de Brian Chappell qui a écrit cet article-là. Alors pourquoi est-ce une révélation d'importance ? Je poursuivrai donc avec trois points. Trois petites graines qu'on peut semer dans nos cœurs. Trois points qui sont directement tirés de l'Ancien Testament et du fonctionnement que Dieu a donné au peuple d'Israël. Et ces trois points concernent les trois ministères suivants, le ministère de roi, les prêtres et les prophètes. Les rois pour gouverner, les prêtres qui étaient médiateurs entre Dieu et le peuple, et les prophètes qui étaient chargés de transmettre la parole de Dieu, les avertissements, les encouragements, etc. Jésus est roi. Nous l'avons chanté. Et si Paul ne parle jamais de l'ascension de Jésus, comme on l'a dit, il part quand même du principe que cette ascension a bien eu lieu. Et si Paul ne parle pas de l'ascension, c'est qu'il n'y avait pas forcément lieu d'en parler parce que c'était un fait attesté dans l'Église primitive. Jésus est réellement monté au ciel. Jésus est à la droite de Dieu. Paul ne détaille pas, n'argumente pas ce fait. Jésus est à la droite de Dieu. C'était un fait incontestable dans l'Église primitive. Jésus est à la droite de Dieu. Cette phrase suggère qu'il y a bien eu une ascension. Et l'ascension, c'est le couronnement de Jésus comme roi suprême. Si Jésus régnait déjà sur le monde avant sa venue sur terre, c'est désormais en tant que vainqueur sur la mort qu'il revient auprès de Dieu. Vainqueur sur la mort. C'est pas une petite chose, hein ? Jésus a rempli la mission qu'il devait remplir. Alors que maintenant il siège à la droite de Dieu, il continue d'exercer une autorité sur le monde entier. Jésus a vaincu la mort, il est légitime pour exercer une autorité sur le monde entier. Quand on déroule le fil de nouvelles, d'actualité, quelle que soit votre plateforme pour lire l'actualité, le 24 heures pour les 50 et plus, ou Instagram pour les 30 et moins, il y a un entre-deux où on se nourrit un peu de tout. Il y a un fait qui est vrai et qu'on confesse, c'est que Jésus exerce une autorité sur le monde entier. Quoi qu'il arrive, Jésus exerce une autorité. On ne comprend pas toujours tout, on ne comprend pas le pourquoi, mais rien n'échappe à son regard. Jésus est roi. Et l'apôtre Pierre l'a bien expliqué dans sa prédication en acte 2, puis là je fais un petit bond dans le temps, je me retrouve à la Pentecôte, acte 2, 36, qui nous dit « Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Dieu a fait Jésus Seigneur et Messie. Alors lorsque nous disons que Christ règne, nous confessons donc qu'il a endossé cette fonction de roi. Ce verre d'eau, il est à qui ? À moi ? Ah, merci. Maintenant, tant que Seigneur qui est monté au ciel, Christ est Seigneur au-dessus de tout. Il est celui qui contrôle toutes choses, de façon à ce qu'elles contribuent au bien de ceux qu'il aime. Parfois difficile. Ce n'est pas toujours des choses faciles à entendre et on ne comprend pas toujours le pourquoi. Mais le but de Jésus, c'est de nous attirer à lui. Et on verra dans les autres fonctions qu'il endosse que son but, c'est de nous attirer à lui. Quoi qu'il arrive. Ce qui est merveilleux, c'est que le psaume 110 annonçait déjà la royauté de Jésus. Bien quelques centaines d'années avant les événements. Le psaume 110 nous dit « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Je ne sais pas si vous avez regardé Roland Garros ces derniers temps. Je n'ai pas regardé, mais j'ai quand même regardé la cérémonie en l'honneur de Rafael Nadal. Alors j'étais plutôt Team Federer, mais je reconnais quand même que Nadal était un grand joueur qui a gagné 11 titres à Roland-Garros. Et puis dans cette cérémonie d'honneur, il y a eu différents discours, différentes vidéos qui ont été passées, etc., des hommages, beaucoup d'émotions. Et puis à la fin, le clou du spectacle, c'était quand les organisateurs du tournoi ont dévoilé une empreinte de pied de Nadal à côté, sur le court central, à côté du filet. Et là, beaucoup d'émotions. Nadal a fondu en larmes. Et un commentateur a dit à ce propos, « Il y aura désormais une trace de son pied » comme pour insister sur l'éternité de son héritage. Waouh ! Heureusement, il n'y a pas des amen, il y a des waouh. Ah non, c'est pareil, hein ? Alors, permettez-moi de vous suggérer que la royauté de Christ, que Christ a reçue, est encore plus éternelle que l'héritage de Nadal et son empreinte de pied. Mais le pied est important. Il y a une marque de Nadal sur ce terrain qu'il a foulé, où il a gagné de nombreux tournois. Il y a son empreinte qui marque ce terrain-là. Et Christ, en tant que roi, ses ennemis ont été faits marchepieds. C'est comme si l'empreinte de Christ était marquée sur les ennemis. Et de manière bien plus éternelle que la patte de Nadal sur ce terrain. L'empreinte que Christ a mise sur ses ennemis est indélébile et durable. Il les a écrasés, faisant d'eux son marchepied. Jésus est roi. Mais Jésus est aussi prêtre. Jésus n'est pas simplement monté au ciel. Et je poursuis donc avec ce deuxième point où Paul nous dit « Christ est à la droite de Dieu, Christ est roi ». Mais Jésus est aussi prêtre, et l'apôtre Paul nous dit, parce que Jésus, il intercède pour nous. Et Jésus continue à remplir cette fonction de prêtre en plaidant notre cause et en intercédant pour nous, comme l'a relevé Delphine tout à l'heure. Christ intercède pour nous autant que nécessaire auprès de son Père. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? Christ, en ce moment, intercède pour nous auprès de son Père. Merci Jésus. En méditant sur ce point-là, j'ai découvert à quel point il est nécessaire de se repentir pour nos péchés. Alors que nous nous repentons pour nos péchés, pendant que nous prions, nos péchés sont enlevés par Jésus-Christ. Il agit comme un prêtre en notre faveur. Le prêtre, souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, c'est un médiateur entre Dieu et le peuple. Par le prêtre, le peuple peut de nouveau avoir un accès à Dieu. Le prêtre a cette faculté d'enlever le péché. Christ agit comme un prêtre pour nous. Alors que nous prions, nos péchés sont enlevés par Christ. Il agit comme un prêtre en notre faveur, pour que Dieu agisse en notre faveur. Et le plus grand cadeau qui nous soit donné, c'est le pardon des péchés. Marc 9 nous laisse entrevoir la gravité du péché et le sérieux avec lequel Jésus en parle, lorsqu'il dit « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. » Alors, c'est pas forcément à prendre au sens littéral, on serait tous borgnes, mais il y a quand même la gravité du péché qui est soulignée ici. Il vaut mieux être amputé d'un œil pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu que de se complaire dans le péché. Mais alors que nous prions, alors que nous nous repentons de nos péchés, Christ intercède en notre faveur pour enlever notre péché. Troisième point, troisième petite graine, Jésus est prophète. C'est vrai que le texte que nous avons lu ne mentionne pas explicitement le rôle de Jésus comme prophète, mais on peut quand même en dire quelques mots. Parce que si Jésus est roi et prêtre, en notre faveur, il continue aussi à nous faire parvenir sa parole dans nos cœurs, par l'œuvre de l'Esprit. La raison pour laquelle nous sommes capables de comprendre la Bible, la parole de Dieu, pas seulement dans sa logique, mais dans sa signification, c'est parce que le Saint-Esprit envoyé par Jésus ouvre nos cœurs à cette parole. Et si ce que nous méditons ensemble ce matin produit un écho en vous, ce n'est pas parce que la qualité du papier de la Bible est bonne ou que j'ai bien prêché, mais c'est parce que le Saint-Esprit vous parle. Jésus a ce ministère de prophète, de nous parler au travers du Saint-Esprit et d'actualiser sa parole en nous. Et comme cette parole de Christ nous est donnée par son Esprit, Jésus continue d'agir pour nous comme un prophète, en nous transmettant la parole de Dieu, afin qu'on puisse marcher avec lui. Plus nous lisons la Bible, plus nous accordons du crédit, si je peux dire, au ministère de prophète de Christ. Ce n'est pas juste lire un livre ancien, mais dans notre perspective chrétienne évangélique, c'est de reconnaître que Christ a un rôle de prophète et que par sa parole, il peut nous parler. Alors Christ, dans son ascension, nous montre au travers de ses trois offices qu'il agit quotidiennement pour nous, pour notre bien. Il dirige continuellement les circonstances que nous rencontrons. Il plaide continuellement pour nous dans nos situations de vie. Il communique sa parole à notre cœur pour que nous puissions faire face aux situations que nous traversons. Christ accomplit ses ministères quotidiennement. Mais son travail ne s'arrête pas là. Il y a aussi une notion d'avenir. En tant que prophète, prêtre et roi, il prépare également notre avenir. Toute chose opère en vue d'un objectif divin, d'un aboutissement, d'un accomplissement de la gloire de Dieu. Le jour où nous serons auprès de lui, dans une nouvelle création restaurée, où le mal sera aboli, il n'existera plus, ni maladie, ni souffrance. Et c'est dans cet aboutissement-là que réside notre espérance. En tant que roi, Christ nous prépare une place. Avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples qu'il reviendrait. Il reviendra pour nous emmener avec lui. Il nous prépare une place de bénédiction auprès de Dieu. N'est-ce pas incroyable ? C'est parfois difficile de trouver sa place dans notre société, dans notre monde, dans nos relations. Christ nous prépare une place de bénédiction auprès de Dieu. Et en tant que prêtre, Jésus s'assure que lorsque nous nous tiendrons devant le trône du jugement, nous serons déclarés justes devant Dieu par l'œuvre purificatrice de son sang. C'est lui qui s'occupe de ça, c'est pas nous. Notre salut est garanti par Christ et nous n'avons pas besoin d'être dans une incertitude constante si nous avons accepté la grâce qu'il nous offre. La nature de prêtre de Jésus sera pleinement honorée quand nous nous prosternerons devant lui, quand nous serons enlevés au ciel et que nous serons devant lui. La nature de prêtre de Jésus sera pleinement honorée à ce moment-là. Le salut sera pleinement accompli. Et en tant que prophète, Jésus protège son Église en lui donnant son esprit, afin que la parole de Dieu puisse toucher notre cœur et nous montrer la voie à suivre. Et je me souviens d'un cours que j'ai eu récemment, parce que je suivais une formation à l'Université de Lausanne dans le cadre de la reconnaissance des évangéliques par l'État, et puis on avait un cours sur le christianisme et les origines, et le cours était très, très universitaire, donc quand je dis universitaire, ça veut dire peu confessant, je l'assume. Et puis, on nous expliquait le christianisme, etc., comment il s'est développé, comment la parole de Dieu a été créée, etc. Et puis, il y a une question qui a été posée à l'intervenante, et cette question était la suivante: comment expliquez-vous, malgré toutes les persécutions qu'il y a eu, que l'Église demeure encore aujourd'hui ? La réponse était « je ne sais pas ». On n'explique pas historiquement que l'Église existe encore aujourd'hui malgré toutes les persécutions qu'elle a vécues à ses débuts. Et je crois que l'explication n'est pas scientifique, mais réside dans le mandat de prophète de Christ qui protège son Église. Jésus, ce Seigneur qui est monté au ciel, est celui qui, en tant que prophète, prêtre et roi, règne sur notre présent et prépare notre avenir. Je pourrais m'arrêter là, mais je n'ai pas oublié le mot que je vous ai laissé, responsabilité. Et j'aimerais y revenir dans ma conclusion. Ces trois points accomplis parfaitement par Jésus-Christ se retrouvent dans 1 Pierre 2,9. Et pas de chance, Pierre dévoile notre part de responsabilité. Il nous dit « Vous, au contraire, Église de Cossonay, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » On retrouve prêtres, royaux, proclamer. Autrement dit, les trois ministères que nous avons vus. L'Église est décrite comme une communauté de rois, prêtres, prophètes aussi, à sa manière, à la suite de Jésus, un peuple saint consacré au service de Dieu et à son royaume. Par l'accomplissement de sa triple tâche, Jésus fait de tous les croyants des prophètes, des prêtres et des rois, comme l'homme l'était avant la chute. Alors le ministère de roi, comment est-ce qu'il peut se traduire? Comme Christ règne par le service, il est venu pour servir le monde. En tant que chrétien, on doit aussi employer notre potentiel pour le bien de son prochain et pour l'honneur de Dieu. Les mots-clés, servir humblement. Servir humblement. Le ministère de prêtre, Christ a offert sa vie comme un sacrifice pour nous sauver. Alors nous aussi, en réponse, on peut offrir notre vie comme un sacrifice vivant à Dieu. Non pas mourir sur une croix, mais lui laisser la priorité dans nos choix. Progresser dans notre sanctification, intercéder. Mot-clé, offrir sa vie à Dieu. Le ministère de prophète, comment se traduit-il? C'est partager sa foi par ses paroles, par ses actes. Être communicateur de cette espérance. Témoigner de l'Évangile. C'est ce que nous avons vécu au service Pâques. Mot-clé, témoigner de la foi et de la vérité. Ça va, c'est facile. J'aimerais vous laisser deux questions et puis un moment musical pour poursuivre la réflexion. Dans lequel de ces trois domaines dois-je le plus progresser? Et qu'est-ce qui me permettrait d'y arriver davantage ?